Avant de commencer, une courte publicité pour vous présenter notre sponsor pour cette saison, Elinoy. Elinoy, c'est un incubateur qui aide chaque talent à trouver le job de ses rêves. Notre histoire commune y a commencé il y a bien longtemps, quand j'ai tendu mon micro à Héloïse pour décrypter ensemble le métier de sales. C'est donc naturellement que je les ai associés à cette saison. Pour trouver son premier job, il y a généralement deux catégories de personnes. Ceux qui ne savent pas du tout et qui postulent partout, et ceux qui font sans prendre le temps de regarder les autres options. Dans les deux cas, ils finiront souvent par le regretter. Elinoy parle à ses profils tous les jours. Ils ont développé un accompagnement qui permet de garder le meilleur des deux mondes, s'ouvrir à des pistes que l'on n'aurait pas considérées soi-même, tout en économisant son énergie pour postuler uniquement à des postes qui nous ressemblent vraiment. L'accompagnement est complètement gratuit et personnalisé. Vous aurez un talent manager dédié qui va vous coacher, vous former, vous proposer des offres de job et vous accompagner pour réussir vos entretiens et négocier votre salaire. Bref, il va vous donner tous les conseils pour prendre une bonne décision. Vous pouvez directement vous inscrire sur leur site elinoy.com ou pour les plus fémards, je vous laisse le lien en description du podcast. Allez, la pub est finie, profitez bien de cet épisode.
Propulsé par vocation.
Je suis Jasmine Manet.
Je suis Carla Abirad.
Bienvenue sur Vocation, le média qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Hello, c'est Jasmine au micro. Comme vous le savez, j'ai diplômé en 2020, ce qui fait de moi un membre de cette fameuse génération Covid, comme pas mal d'entre vous, je crois d'ailleurs. Alors que les confinements s'enchaînaient, bah naturellement, partir à l'étranger, c'était pas vraiment une option. J'aurais tellement aimé prendre le temps d'explorer un pays, vraiment, et réfléchir à ce que j'ai envie de faire sans l'urgence du diplôme. Mais la pandémie a frappé, vocation est née, et vous connaissez la suite de cette folle aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, c'est possible de partir à l'étranger, en Europe ou plus loin encore, et le VIE permet de le faire. Alors on a décidé avec Carrefour de vous en dire un peu plus, en tendant mon micro à Romain Trousseux. Pour ceux qui ne connaissent pas, le VIE, ou Volontariat International en Entreprise, c'est un dispositif RH de mobilité internationale sécurisé par l'État français. Il permet à une entreprise de droit français de confier une mission professionnelle à l'étranger, à un talent français ou ressortissant de l'espace économique européen, âgé de 18 à 28 ans en début de mission. Grosso modo, l'entreprise propose une mission, généralement sur un an, reconductible, et Business France accompagne le candidat dans toute la gestion administrative. C'est souvent l'apanage des grands groupes français, et Carrefour notamment propose de nombreuses opportunités en VIE. Carrefour, vous connaissez tous, je m'en doute, mais on rappelle ça dans les grandes lignes. C'est plus de 5000 magasins en France, sur tous les formats, proximité, supermarché, hypermarché, un panel d'innovation et des plateformes digitales, et un engagement fort, notamment à travers leur programme Hack for Food. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le VIE avec Romain. Romain a fait une école de commerce pour pouvoir voyager. Et après un échange de fin d'études au Mexique, il suit son cœur et reste là-bas en CDI, alors qu'un job l'attendait à la Défense. Mais après quelques années là-bas, en contrat local, il avait envie d'un nouveau challenge, cette fois-ci dans une entreprise française où il pouvait se projeter. C'est comme ça qu'il commence en parcours chez Carrefour à Madrid, en contrôle de gestion. Aujourd'hui, il fête quasiment ses 3 ans dans le groupe, son poste a changé pour le planning stratégique. Et pour lui, le VIE a été décisif et l'a propulsé dans sa carrière. Je vous en dis pas plus, Romain vous explique tout à la suite. Pour finir, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur recrute.carrefour.fr. Et un grand merci à notre partenaire Carrefour de nous avoir permis de réaliser cet épisode sur ce sujet. Bonne écoute! Bonjour Romain.
Bonjour Jasmine.
Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'en savoir plus sur tes nombreuses péripéties, je suis très curieuse, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant ?
Alors, il faut que je me replonge dans mes souvenirs d'enfant, mais je pense que depuis très jeune, en fait, mon premier rêve, c'était d'être astronaute. C'est vrai que c'était le rêve de beaucoup de gamins, je pense aussi. Évidemment, je ne le suis pas. Et après, c'est vrai que pendant pas mal d'années, j'avais l'idée en tête d'être reporter photo ou un truc qui me permette de voyager. Je crois qu'en fait, c'est ça le point en commun des deux rêves d'enfance, c'est la découverte, en fait. Voyager, partir à l'aventure, et c'est ça qui m'a toujours guidé dans mes choix, même aujourd'hui, en fait.
Moi aussi, je rêvais d'être astronaute.
Toi aussi. Et alors ?
En fait, non, j'aurais détesté, parce que t'es très seule, et moi, j'aime pas être seule.
Une petite mission de 6 mois, tu vois.
Voilà, de temps en temps. Mais... Et en fait, non, parce que tu pars quand même en équipage. Bref.
Bref, voilà.
Accélérons dans le temps, on est maintenant en 2022. Est-ce que tu pourrais te présenter assez brièvement et après on va aller plus pour remonter dans le temps, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé là aujourd'hui ?
Ok, bon écoute, je m'appelle Romain, j'ai 29 ans, bientôt 30, ça commence à faire peur d'ailleurs. Bientôt 30 et je travaille comme manager en strat chez Carrefour Espagne. Je travaille là-bas depuis maintenant 2 ans, presque 3. à Madrid. Donc très heureux de mon parcours aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut remonter à cet enfant, cet adolescent peut-être plus qui rêvait de voyager ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur où tu as grandi, sur tes premiers choix d'études peut-être et ensuite pro, et ce qui t'a amené ensuite à assouvir cette envie de voyage ?
Bah écoute, j'ai grandi à Perpignan, dans le sud de la France, donc soleil, un grand soleil. J'ai passé toute mon enfance là-bas. C'est vrai qu'en fait, l'enfant qui rêvait de voyager, en fait, je pense que c'est devenu de mon cousin qui a fait une grande école de commerce, lui aussi. Et je le voyais, enfin, il a 15 ans plus que moi, donc du coup, on a un décalage d'âge assez, assez grand. Et je me rappelle, il revenait chaque fois de ses voyages. Il avait voyagé en Chine, au Mexique, en Australie. Et il revenait toujours avec ses films qu'il avait fait avec le magnétoscope. Alors là, c'est vrai que les moins de 25 ans ont du mal à se souvenir d'un magnétoscope. Enfin, un caméscope, pardon. Même moi, j'ai du mal, mais un caméscope. Et en fait, je regardais ses films de voyage en boucle. C'est vrai que quand j'étais gamin, ça me permettait, je pense, de m'évader un peu, de voyager avec lui. Je découvrais les pays à travers ses films. Et je pense que je suis toujours resté avec cette idée-là en tête, quoi, de voyager et de parcourir moi aussi le monde à ma petite échelle. Quoi. Et j'ai toujours orienté mes choix, en fait, que ce soit d'études ou de carrière, avec cette idée en tête-là, quoi, de voyager. Je pense que les gens qui ont un peu la bougeotte comprendront, mais c'est vrai, c'est... Enfin, j'ai fait une école de commerce parce que ça permettait de faire des échanges à l'étranger. Je me suis orienté en finance, que pour moi, c'était un type de job que tu pouvais faire un peu n'importe où. Voilà, j'ai toujours guidé mes choix à travers ce prisme-là. Et ça m'a permis de voyager en Suède, de faire un premier échange en Suède, second au Mexique. J'ai travaillé au Mexique pendant 3 ans et maintenant en Espagne. Donc, j'ai pu assouvir un peu mes désirs d'enfant.
Paris tenu. Et ça m'interpelle ce que tu dis sur la finance qui te permet de le faire partout dans le monde, parce que je ne l'avais jamais vu comme ça. Mais c'est vrai que c'est un bon point que si tu as envie de voyager, il faut aussi adapter
ton job,
le métier.
Le métier, c'est ça. Bon, après, tous les métiers de la finance, non. Hein. C'est vrai qu'en controlling, par exemple, c'est beaucoup plus simple c'est analyser des comptes de résultats, faire des budgets, tu vois. Bon, analyser les variations, c'est ça. C'est un peu technique, mais c'est ça, en fait. Et tu peux le faire basiquement n'importe où. Hein. C'est vrai qu'en fonction du pays, ça ne va pas changer ton métier en lui-même. Donc,
Et donc, de cette formation, plutôt du coup en contrôle de gestion, en finance, tu décides de partir au Mexique. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et comment tu as trouvé ce job ?
Alors, c'est vrai que je suis parti en contrat local, en plus, au Mexique. Enfin, j'avais fait déjà un échange, comme je te disais, mais c'était mon dernier échange de fin d'études. En fait, j'avais en tête le parcours un peu classique. J'avais déjà mon premier job en audit à Paris, quoi, de prévu. Et en fait, quand je suis arrivé au Mexique, j'ai passé 4-5 mois et je suis tombé amoureux du pays. Enfin, je crois que c'était ma meilleure expérience à l'étranger. J'ai adoré le pays, j'ai adoré les gens, la culture. J'ai même rencontré ma compagne là-bas, du coup, voilà. J'avais un peu tout là-bas. Et je me suis dit, c'est le moment, en fait, j'ai eu une opportunité. En fait, je faisais un échange. C'est vrai qu'au Mexique, le parcours éducatif est un peu différent. Tu fais des masters à 35 ans, 40 ans. Donc, j'étais en cours avec des gens qui étaient déjà avec une carrière bien installée dans des boîtes au Mexique. Et un des contacts m'a proposé un job là-bas, en contrat local. Et en fait, voilà, bon, le parcours classique aurait été de retourner à Paris, de faire ta voie un peu... normal pour un job en finance. Bon, j'ai longtemps hésité, honnêtement, je ne me suis pas dit, je reste directement. Mais en fait, ce que je voulais faire vraiment, c'était rester au Mexique. Quoi. Je me suis dit, je
c'est
vais passer
comptait,
voilà, le cœur avant la raison. Quoi, franchement, c'était les meilleurs 3 ans de ma vie. C'était génial, génial. Donc, je ne regarde pas le choix à une seule seconde.
Et alors, c'est comment de faire du contrôle de gestion au Mexique avec des locaux ? Je suppose que tu étais en plus en contrat local, ça veut dire que tu devais être vraiment immergé dans une culture.
Totalement. Là, avec 6 jours de vacances dans l'année, c'est vrai que là, j'étais immergé contrat local. Ça a été un peu compliqué au début. C'est vrai qu'il faut t'adapter. Bon, au Mexique, tu as un mot ahorita, c'est-à-dire maintenant. Mais le maintenant mexicain, ça peut être maintenant dans 2 secondes ou dans 3 mois ou jamais, tu sais. Donc, il faut être hyper patient au boulot, quoi. Il faut toujours... il faut s'adapter, en fait. Et en fait, tu vois, une fois que tu vis là-bas, tu vois aussi que les gens ont des conditions de vie hyper compliquées parce que tu rentres au bureau normalement à 8h30, 9h du matin, mais la plupart des personnes doivent se lever à 5h du matin pour arriver à temps au bureau, tu vois. Et vraiment, ça m'a apporté beaucoup à ce niveau-là, en fait. Tous les petits tracas qu'on a, nous,
humainement,
tu vois, les petits tracas que tu as ici en France, alors que ça ne représente pas grand-chose quand tu le vois de l'autre côté, tu sais. Donc, Non, c'était une hyper belle expérience. Et c'est vrai qu'en contrôle de jet aussi, top, bah, j'ai travaillé chez Groupe M, en fait. C'est un peu la compétition d'Avas Media. Et j'ai travaillé là-bas 3 ans comme business controller. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a permis franchement d'apprendre beaucoup. Parce que j'avais des responsabilités, j'avais même un plan de carrière défini. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 ans, professionnellement, je tournais peut-être un peu en rond. Je voulais voir autre chose aussi, avoir un nouveau défi. C'est pour ça qu'en fait, je me suis intéressé un peu à d'autres opportunités. J'avais toujours en tête le VIE, en fait, contrat à l'étranger. Je me suis orienté vers cette voie-là après.
On va y venir, mais j'avais 2 questions pour toi. Déjà, l'amour dure 3 ans, peut-être qu'au travail aussi. Qu'est-ce qui faisait possible, qu'au bout de 3 ans, tu avais envie de changer? Comment tu l'as perçu? Enfin, question ouverte, hein, mais...
Ouais. Bah, c'est vrai qu'en fait, je pense que j'étais un peu impatient aussi. Hein. Je pense que aussi quand tu es jeune aussi, tu veux toujours avoir des défis, te sentir un peu stimulé intellectuellement. Et c'est vrai qu'au bout de 3 ans, j'avais fait le tour un peu du job. Je ne voyais pas d'autres possibilités qui pouvaient me motiver, même en interne. Hein. C'est vrai que j'aurais continué un peu dans cette voie-là, mais sans pour autant faire de nouvelles choses ou tester de... Voilà. J'avais besoin de tester de nouvelles choses et de me mettre un peu aussi en défi, enfin connaître un peu un défi un peu plus fort, quoi, ouais, me challenger un peu plus.
Et si tu avais, on va venir sur la suite, mais si tu avais une partie de la culture mexicaine que tu avais envie de transmettre à ceux qui nous écoutent, que ce soit perso, pro, peu importe, mais une inspiration pour être.
Je pense que les Mexicains sont hyper solidaires, hyper ouverts, en fait. C'est vrai que. Tu arrives dans la culture, tu connais pas, parce que ça, au fond on connaît pas grand chose. D'ici, moi j'avais en tête les fajitas et les c'est même pas mexicain en plus. Donc, voilà, c'est vrai qu'on connaît pas beaucoup la culture mexicaine. Un peu plus maintenant avec les films, c'est un peu plus développé. Le Dia de Muertos en octobre, tu sais, c'est un peu plus développé, c'est un peu plus à la mode. Mais c'est vrai quand je suis arrivé, je connaissais pas du tout. Et les Mexicains t'accueillent à bras ouverts, mais directement. J'ai passé 3 ans et pour mes amis là-bas, je suis comme si j'étais mexicain. Je suis mexicain pour eux, tu sais. Je suis directement, ils t'accueillent les bras ouverts, ils t'immergent dans leur culture et tout. Et c'est. Tu te sens vraiment, tu as comme un sentiment d'appartenance directement, tu vois. Donc vraiment, à ce niveau-là, génial, génial.
Trop bien. Ok. Donc là, tu as envie d'un nouveau challenge.
C'est ça.
Comment est-ce que tu as mené cette réflexion de ok, maintenant que j'ai décidé que j'avais envie de changer.
Ouais.
Il y a quelque chose qui s'appelle le VIE qui existe. Déjà, tu vois, moi, je prends mon œil un petit peu naïf et bébé sur le sujet, mais pour moi, VIE, c'est directement après l'école.
Ouais, ouais.
C'est à l'étranger. Peut-être que tu peux m'expliquer un petit peu plus de déjà comment tu as découvert le format et puis du coup, pourquoi c'était la bonne réponse à ta prochaine étape. Ouais. Et après, comment tu as mené ta recherche pour répondre à cette envie de changement.
Bah, écoute, c'est vrai que moi aussi, j'avais cette idée-là en tête, en fait, que le VIE, c'est... Pas un stage, mais comme un stage premium, en fait, que tu fais après ta sortie d'études. Et c'est vrai que pas mal d'amis à moi avaient fait des VIE en sortant directement de l'école, donc à la sortie d'études, sans trop d'expérience professionnelle en amont. C'est vrai que moi, j'avais toujours, en fait, beaucoup d'amis avaient fait ça, et j'avais toujours cette idée en tête, en fait, le VIE. Et voilà, au lieu de regarder TikTok, moi, je scrollais la plateforme Business France, et je regardais les offres, tu vois. J'ai toujours ça en tête, en fait, j'ai toujours eu l'envie de faire un VIE.
Est-ce que c'est parce que ça te permettait de travailler à l'étranger avec un contrat français ?
Avec un contrat français, un contrat avec beaucoup plus, de meilleures conditions que tu as en contrat local. C'est vrai qu'au Mexique, par exemple, là, j'avais 6 jours de vacances dans l'année, payé en pesos mexicains, alors que j'avais des potes en VIE au Mexique, avec un contrat, tu vois, 30 jours de vacances, payé en euros. Bon, tu as aussi des conditions quand même beaucoup plus avantageuses. Et aussi des diversités de missions. C'est vrai que normalement, tu signes pour 1 an. Avec un job prédéfini, et tu peux renouveler pour une autre année supplémentaire, pour un autre job, un autre pays. Bon, ça t'ouvre quand même pas mal de portes, et en plus dans un grand groupe français. Donc si tu veux changer de pays, retourner en France, c'est possible.
Voilà,
c'est quand même un gros tremplin, donc j'ai toujours été attiré par le VIE. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'offres qui n'était pas du tout destiné à des juniors. Et même dans l'offre, on te dit expérience de 2-3 ans.
Ça, c'est toujours les offres, hein, même
c'est
les stages.
C'est vrai. Mais bon, les responsabilités, tu vois, des missions étaient quand même assez importantes. Et en fait, je suis tombé un jour sur une offre de Carrefour, comme business controller e-commerce. Donc, toujours orienté contrôle de G, mais aussi un peu plus opérationnel, un peu plus strat. Et je me suis dit, en fait, j'ai lu l'annonce et je me suis dit, c'est pour moi, quoi. C'est ce que je veux faire. En plus, c'était en Espagne, à Madrid. Donc, je gardais aussi un peu le lien, tu vois, hispanique, ouais. Avec le Mexique. Donc, je me suis dit, on y va.
Ouais. Et c'était pas dur de changer toute ta vie que t'avais construite au Mexique pour changer de pays?
Ah oui, ouais, ouais. Ben, ça a été compliqué, c'est vrai que...
La première fois, ça peut être excitant, mais la deuxième fois, ça peut être un peu plus dur.
C'est un peu plus dur, en fait. C'est vrai que j'ai réfléchi, parce que même au Mexique, on allait m'offrir quand même un plan de carrière aussi dans la boîte où j'étais, donc c'était changer, voilà, encore de boulot. C'est vrai qu'une fois... Enfin, en plus, j'avais déjà 27 ans, donc c'est vrai qu'à 27 ans, t'as quand même envie d'être un peu plus posé, tu vois, d'avoir ta carrière un peu plus orientée. Tu sais que t'aimerais terminer manager à 30 ans, ou enfin... Beaucoup d'amis à moi m'ont dit bon, tu recommences un peu à zéro, quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est vrai que le VIE, c'est. T'as toujours cette image, comme je te disais, junior, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment un tremplin qui te permet, au bout d'un an ou deux, d'avoir vraiment une position à fort potentiel. Et t'as beaucoup de visibilité dans une boîte. Donc, ça a été un bon choix.
Ok, donc t'es parti à Madrid.
À Madrid, c'est ça.
Chez Carrefour. Pour un VIE. Et donc, t'avais signé pourquoi?
Alors, j'avais signé, donc, comme je te disais, pour contrôle de G e-commerce. Voilà. Alors, top. Vraiment, je n'ai pas été déçu. C'est vraiment... j'ai découvert un nouveau secteur d'activité que je ne connaissais pas du tout. Parce que, bon, j'avais travaillé déjà en banque, l'industrie automobile et dans les secteurs du média. Mais c'est vrai que le retail, je ne connaissais pas du tout. Et c'est un secteur hyper varié. Tu peux, au sein de Carrefour, tu peux travailler soit en banque, en fait, ou en e-commerce, ou en marchandises, ou voilà, dans l'immobilier même. Donc, tu as beaucoup de secteurs hyper attractifs. Et à l'e-commerce, secteur en plein boom, hyper stratégique pour Carrefour, donc beaucoup de visibilité là-bas aussi. Et même si c'était orienté finance, voilà, analyse des comptes, voilà, élaboration du budget, voilà. Mais tu avais aussi toute une partie beaucoup plus opérationnelle et strat qui m'a beaucoup intéressé. Et au bout de 6 mois, en fait, on m'a proposé d'avoir un poste un peu plus orienté stratégie, justement. Et je suis parti, en fait, je suis resté à Madrid, mais j'ai changé de poste dans la direction financière strat, comme en fait responsable stratégique pour Carrefour Espagne. Et depuis, en fait, je travaille directement avec le CEO Espagne et le directeur financier Espagne. Sur tous les thèmes un peu strat du groupe.
Et puis, ça m'intéresse ce que tu me disais, où on peut penser que c'est un peu comme un stage ou une alternance à certains égards, mais à l'étranger. Est-ce que tu peux me raconter justement quel était ton rapport à tes collègues, comment tu percevais l'importance de ton rôle? Et en plus, ils t'ont proposé de changer le périmètre de ton poste assez rapidement sur les deux ans, enfin un an renouvelé 2 ans. Je suis curieuse de comprendre comment tu percevais ta place au sein de contrats locaux, si je peux appeler comme ça. Parce que je pense que de ce que je comprends, de ce que tu me dis, c'est vraiment pas comme un stage.
Non, pas du tout. Mais en fait, même les contrats locaux...
Tu avais déjà 3 ans d'expérience en
plus. C'est ça. je revenais pas, voilà, de sortie d'école. Mais je pense qu'en fait, que même les contrats locaux sont habitués à avoir des VIE au sein de leur entreprise. Donc, Enfin, dans des grands groupes comme Carrefour, par exemple, ou autres, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a des générations de VIE qui passent d'année après année et qui soit restent en contrat local. Donc, tu as toujours aussi une base d'anciens VIE qui t'aident à l'intégration dans ton pays, soit qui repartent au groupe en France ou dans d'autres pays. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une culture du VIE dans des grands groupes comme ça qui t'aide à t'intégrer facilement, en fait. Et directement, tu sens pas que tu es un externe, en fait. Les contrats locaux t'accueillent comme si tu étais un des leurs, en fait. Comme si tu étais là depuis le début. Et on ne te fait jamais ressentir que tu es stagiaire ou autre. Tu sais, non, les missions sont hyper valorisantes, tu as des responsabilités dès le début et des possibilités d'évolution, quoi. Donc, et rapide. Parce que j'ai changé de poste au bout de 6 mois, donc c'est quand même assez rapide.
Et tu me parlais du fait que ça pouvait être un tremplin. Sur la suite, est-ce que tu peux me raconter justement comment toi, t'as abordé la fin? Du coup, si je me trompe pas, t'as fini ton VIE?
Oui, tout à fait. Ouais,
tu peux me raconter un peu la transition et pourquoi t'as choisi de rester et comment ça a été réfléchi? Est-ce que c'était vraiment dans la continuité? Enfin, je suis curieuse de comprendre comment ça se passe.
Écoute, c'est vrai que j'ai terminé en fait en août dernier. Après 2 ans de VIE. Et chez Carrefour, on a un suivi quand même hyper régulier avec les RH groupes ou les RH locaux. Donc c'est vrai qu'au bout de 6 mois déjà, on te demande comment tu te sens dans l'entreprise. Enfin, tu as toujours un suivi avec des calls réguliers, des meets, tu vois. Bon, il y a quand même, c'est comme une promotion VIE et les RH te suivent énormément et t'accompagnent. Donc voilà, j'ai eu plusieurs points avec les RH groupes et les RH locaux. Et en fait, pour moi et pour eux, en fait, le projet s'inscrivait sur la durée, quoi. Tu démarres ton VIE avec un contrat à durée déterminée, en fait. C'est un an renouvelable pour un an supplémentaire. Mais en fait, je me suis jamais senti avec l'épée de Damoclès en me disant, bon, dans 2 ans...
le siège éjectable.
Adieu. Non, pas du tout, tu vois. Depuis le début, en fait, on m'a fait comprendre que les postes qu'offre Carrefour en VIE sont là pour s'inscrire dans la durée, pour former les personnes, pour que ces personnes-là puissent travailler à l'étranger ou en France, ou voilà. Mmh. Des personnes avec des profils à forte adaptabilité et potentiel. Tu vois. Donc, c'est vrai que dès le début, on m'a bien fait comprendre que c'était sur le long terme. Et 6 mois avant la fin de mon VIE, c'était en avril-mai, on m'a demandé ce que je voulais faire. On m'a proposé différentes options, ou revenir en France, ou rester en Espagne, ou travailler à l'étranger. Et c'est vrai que d'un commun accord avec mon manager aussi, je m'étais dit, j'ai envie de rester en Espagne, j'ai adoré l'expérience, j'adore mon poste actuellement. C'est vrai que je me suis aussi un peu cherché, au début j'étais parti surtout du contrôle de G, mais c'était peut-être un peu trop monotone pour moi, un peu trop répétitif, et c'est vrai que là le poste que j'ai qui est un peu plus stimulant intellectuellement me correspond parfaitement, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je reste, c'était naturel.
Trop bien. Est-ce que tu peux me... Enfin, si t'as une idée de mission mission que t'as menée qui peut être un bon exemple de qu'est-ce que ça veut dire, parce que si je me trompe pas sur LinkedIn, t'es planeur stratégique.
Oui, c'est un
poste... Enfin, t'es au planning stratégique, c'est un métier qu'on a déjà eu sur vocation, mais côté pub.
Ok.
Et du coup, c'est un... Enfin, moi, que je connais un tout petit peu comme ça.
D'accord.
Mais du coup, ça n'a rien à voir, je suppose, pour quand c'est adapté à un secteur dans un grand groupe. Est-ce que tu peux me donner un exemple de mission sur lesquelles tu as travaillé un peu en strat, si tu as une idée ?
Oui, tout à fait. Bon, en fait, déjà, ce poste-là, en fait, est un peu un poste de soutien au CEO et directeur financier, au CFO.
D'accord.
Donc, en fait, tu vas aborder énormément de thèmes. Tu vas avoir des thèmes liés à l'e-commerce, à la finance, au M&A, à la planification stratégique. Tu vois, j'élabore le plan strat avec le COMEX d'Espagne pour les 3-4 prochaines années. Donc c'est toujours un suivi de projet régulier, en fait, et un challenge, analyser les projets, comment ils évoluent dans le temps, s'ils répondent bien à l'objectif qu'on s'était fixé. Par exemple, dernièrement, Carrefour Espagne a fait l'acquisition d'une chaîne de magasins en Espagne, et mon rôle, c'était de suivre l'évolution des ventes, des résultats, voir si ces résultats correspondaient à ce qu'on s'était fixé au départ, et essayer toujours de trouver des solutions pour améliorer ces résultats-là. Donc c'est toujours un peu analyse et aide à la décision pour les managers.
Et puis on est quand même, on va pas l'ignorer, dans un contexte assez particulier où partir à l'étranger peut être un peu paradoxal. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quel impact ça a eu, toi, dans ta façon de prendre la décision, de chercher un VIE, et après, au quotidien, dans ton travail, nous, on connaît la version française, comme on était là, mais pour ceux qui sont curieux de voir comment se sont adaptés ton employeur et ta recherche, et un peu comment tu as réussi à te projeter à l'étranger dans le contexte actuel, parce que je veux pas que ce soit un frein à ceux qui ont la bougeotte comme
non,
toi de
non.
se dire j'ai envie de partir, en fait.
Non, pas du tout. Mais en fait, bah, écoute-moi.
Parce que tu vois, pour l'anecdote, je pense que dans ma promotion d'école, il y avait beaucoup de gens qui voulaient partir à l'étranger.
Ouais.
Bon, après, on a diplômé en 2020, donc c'était encore plus compliqué, mais.
D'accord.
J'ai l'impression que c'était un rêve, tu vois, sur les 2-3 dernières années. Et en fait, dans les faits, j'ai l'impression que les chiffres montrent que personne n'est parti.
Que personne n'est parti.
Parce que tu avais peur, parce que tu te dis, je vais pas avoir le bon contrat. Enfin, je suis curieuse que
c'est
tu
vrai,
me...
C'est vrai, ça te met un peu
tu
un
me dis
frein,
si j'ai ouais. tort ou pas.
Bah, écoute, alors, moi, j'ai pas eu l'impact du Covid sur ma recherche, parce qu'en fait, c'est arrivé quand j'étais déjà en contrat en Espagne. Donc,
okay.
En gros, j'avais une prise de poste en septembre 2019. Du coup, j'avais passé déjà 6 mois en Espagne et le Covid nous est tombé dessus. Et évidemment, c'était les premiers mois hyper compliqués.
Oui, parce que Madrid, c'était dur. Hein,
non
c'était
Madrid,
complètement, tu n'avais pas le droit de sortir de chez toi.
Tu ne pouvais rien faire. Rien faire pendant les 4-5 premiers mois, en fait, jusqu'à juin. C'était un des confinements les plus difficiles. Au départ, on n'avait pas le droit de sortir. Seulement pour aller en pharmacie ou pour faire tes courses. Un par foyer en plus, donc si t'es deux, c'est un par foyer qui peut sortir. Et après ça, en fait, je pense qu'à Paris, vous aviez toujours des petits horaires, non, pour faire du jogging ou sortir une heure par jour.
Il y avait une heure, ouais.
C'est ça. À Madrid, rien du tout. Et après, on a eu droit un peu plus tard en mai-juin. Mais là, c'était une heure entre 6h et 8h du matin. Et ou une heure entre 20h et 22h du soir. Donc évidemment, pour voir le soleil, c'était un peu compliqué. c'était pas terrible. Mais c'est vrai que, alors honnêtement, moi, ça m'a pas trop impacté parce qu'en fait, j'étais déjà habitué à vivre à l'étranger. Mais je suis sûr que si c'est ta première expérience, c'est la première fois que tu pars de chez toi, t'es tout seul et t'es confiné dans un pays que tu connais pas trop, ça peut être compliqué, évidemment. Mais après, il faut savoir aussi que les entreprises mettent à disposition des choses pour t'aider. Mmh. T'as toujours un suivi. Si tu voulais rentrer en France, tu pouvais aussi. Donc, t'es pas laissé seul dans la nature. T'as toujours un encadrement hyper, hyper développé. Après, pour la recherche aujourd'hui, je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème. Je vois encore chez Carrefour de nouveaux VIE qui arrivent chaque année. Vraiment, le Covid aujourd'hui n'est plus du tout un frein pour pouvoir partir à l'étranger. Surtout si tu es encadré, en Europe, aucun problème. À l'étranger, enfin, en dehors de l'Europe, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend les pays et les conditions sanitaires. Mais c'est vrai qu'en Europe, vraiment foncé, il n'y a aucun problème. Et surtout en VIE, en fait, vous êtes hyper bien encadré. Donc, s'il y a un problème, vous êtes
pris en charge. C'est l'avantage du contrat français, quoi.
C'est l'avantage. Mmh. Alors qu'en contrat local, bon, un peu plus compliqué, ça oui.
Donc là, tu es maintenant en CDI. Enfin, t'es installé en fait à Madrid, donc là, tu te vois. Comment tu te projettes pour la suite t'as une vie là-bas. Comment est-ce que tu. Là, ça va faire 2 ans et demi, donc t'es chez Carrefour.
Deux ans et demi.
Voilà. Je suis curieuse un peu, what's next? Comment est-ce que tu vis ton quotidien à Madrid maintenant que c'est plus confiné, je crois?
Non, alors après, du coup, on a eu de la chance parce que Madrid n'était plus du tout confiné. Comparé à Paris, en France, on a eu des vagues.
Plein d'allers-retours.
À Madrid, non. Mais je peux te dire que chaque week-end, je voyais beaucoup de Français qui venaient à Madrid pour pouvoir boire des verres en terrasse. Donc, c'est vrai qu'après, on a eu beaucoup de chance. Et là, sur le court moyen terme, je me vois encore rester à Madrid. Fait que maintenant, je suis en contrat local. J'ai toujours ce lien avec le groupe aussi qui me permet d'avoir un suivi de carrière. Donc, c'est hyper intéressant parce que tu as quand même beaucoup de visibilité et d'opportunités par la suite. Mmh. Et c'est vrai que pour le moment, moyen terme à Madrid et pourquoi pas dans les prochaines années, bouger encore une fois. C'est vrai que j'ai toujours la bougeotte. C'est vrai que je pense que c'est pas un truc curable. mais ouais, pourquoi pas. Carrefour offre pas mal de possibilités. J'ai toujours retourné en Amérique latine, pourquoi pas. C'est vrai que t'as des possibilités en Argentine ou au Brésil et ça m'attire énormément. Donc toujours ouvert.
Trop bien. Et puis, moi, je me pose pas mal la question de... Tu travailles dans un grand groupe français où le siège est en France. Comment c'est de travailler, en fait, dans une des filiales étrangères? Est-ce que t'as l'impression d'être moins important que le siège? Enfin, en fait, je sais pas. C'est une question ouverte sur en fait comment tu choisis la boîte aussi où tu vas faire ton VIE et puis pour bosser à l'étranger en général.
Ouais, c'est une bonne question. En fait, au fond, t'as toujours un lien avec le groupe. Donc, ouais. Même si t'es en contrat local ou en VIE, t'es toujours lié au groupe. Donc, t'as toujours les avantages au niveau des plans de carrière, de visibilité. T'as toujours ce lien avec le groupe qui est important. Même pour toi, c'est vraiment un tremplin. Et en local, en fait, c'est vrai que t'as aussi pas mal d'avantages au fond. Parce que, un Français au groupe à Carrefour, c'est
monsieur tout le monde.
Un parmi tant d'autres. Et c'est vrai qu'en Espagne, au fond, ou dans d'autres pays à l'étranger, dans un grand groupe français, t'as toujours un peu cette visibilité, au fond, que t'aurais pas en France. Mmh. Donc c'est vrai que ça t'aide quand même pas mal, même au niveau de la progression de carrière, où je pense que t'as toujours ce point-là qui joue un petit peu et qui t'aide beaucoup, en fait, pour progresser dans une boîte. Donc après, c'est toujours aussi important de repasser par le groupe, je pense, par le siège, pour progresser, pour avoir une...
Ouais, donc le VIE, c'est un peu ton trait d'union entre les deux.
C'est ça, entre les deux. Ouais, t'as les avantages de vivre à l'étranger sans perdre non plus ton lien avec la France. Donc vraiment top.
Et du coup, avec le recul, pour ceux qui nous écoutent et qui se posent la question du VIE, qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme apprentissage Tu m'as déjà parlé de pas mal d'avantages, mais peut-être qu'il y a aussi quelques inconvénients. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de partager si là, je te disais, OK, Romain, j'hésite à faire un VIE, qu'est-ce que tu me dirais ?
Non, mais je te
dirais... Quelle question tu me poserais ?
Alors, quelle question ? Est-ce que tu es prête déjà à vivre à l'étranger, à vivre loin de ta famille, de tes amis, de changer de vie, en fait ? Parce que, au fond, c'est un peu un changement de vie. Tu n'auras plus les mêmes habitudes, quoi. C'est vrai que, alors, si tu es prête à ça, si tu as...
Et d'ailleurs, t'es aidée ou pas en arrivant
En arrivant, oui, ça dépend
si de... Si tu veux trouver un logement, ces trucs-là.
Voilà, ça dépend des entreprises, mais oui, normalement, tu es aidée. En fait, t'as un premier mois d'hôtel offert par la boîte, normalement, qui t'accueille pour que tu puisses trouver un logement sur place. Parce que c'est vrai que trouver un logement depuis la France à l'étranger, c'est toujours une galère énorme, avec beaucoup d'arnaques, donc il faut faire hyper attention. Il vaut mieux chercher sur place. Et donc, ouais, t'as un mois d'hôtel pour te permettre un peu de retomber sur tes pattes. Et une fois que t'as trouvé ton logement, tu peux avoir en fait une aide financière. Bon, alors le barème VIE, le salaire VIE, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment voir sur Business France tous les détails. Mais en fait, t'as une partie fixe que te donne Business France et une partie variable qui dépend de ta position géographique. En fait, ça dépend du pays, du coût de vie du pays, au prorata, voilà. Pour adapter un peu ton niveau de vie là-bas.
Oui, et donc globalement, tu me recommandes d'aller faire un gros tour sur le site de Business France.
Va voir, et si tu vois des pays en Amérique latine, ça peut valoir le coup. Payer en euros, je peux te dire que ça peut valoir le coup là-bas. Mais ouais, du coup, voilà, et tu peux avoir, en fait, on peut t'enlever une petite partie de ta partie variable pour avoir une aide au logement, qui au fond, t'es gagnant, mais voilà, c'est ça. Donc t'as pas mal d'aide quand t'arrives et au cours de ton séjour là-bas.
Et donc, les questions qu'il faut que je me pose...
Voilà, est-ce que tu es prête, du coup, à changer de vie ? Oui. Ça, c'est le plus important.
Par exemple, toi, est-ce que t'es pote qu'avec des collègues ?
Au Mexique, pas du tout. C'est vrai que
mais t'avais la transition avec le monde étudiant.
C'est ça, c'était beaucoup plus facile. Mais là, c'est vrai qu'avec le Covid, en plus, en Espagne, ça a été... Enfin, l'adaptation, au départ, c'était génial. Voilà, j'ai fait des rencontres, voilà, de sortir... Mais avec le Covid, c'est vrai que ces liens-là que tu as créés pendant 3 mois, 4 mois, ce n'est pas des liens hyper forts, donc tu peux les perdre rapidement. Et c'est vrai que, ouais, en ce moment, c'est vrai qu'on repart petit à petit, voilà, de nouveau à sortir, mais c'est vrai que j'ai eu un moment où je sortais vraiment qu'avec des collègues. Des collègues,
c'est ça.
Mais après, c'est très bien aussi, voilà, c'est aussi hyper intéressant. Mais c'est vrai que là, je pense qu'avec la fin du Covid, j'allais dire,
la reprise,
je pense que ça ira mieux. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez sortir, faire des rencontres. Vous ne serez pas bloqué avec vos collègues tous les week-ends. Donc, pas
c'est
de problème.
Choix. C'est un choix. OK, donc plutôt une grande curiosité et puis d'être sûr que tu te projettes aussi sur le long terme. Ce n'est pas comme un échange ou...
Pas du tout.
Enfin, après, quoique, tu peux partir qu'un an.
C'est ça. Après, c'est ouvert à tes envies, quoi. Si au bout d'un an, tu ne te sens pas à l'aise non plus... Faut pas avoir peur de se tromper non plus, quoi, en fait. Je pense que vraiment, s'il y a un conseil, c'est prenez des risques, trompez-vous, en fait. Et c'est ça qui va forger votre personnalité, votre caractère. Et c'est là où vous allez savoir vraiment ce que vous voulez faire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, t'as toujours cette image du succès, en fait, que tu dois trouver ta voie directement. Alors que, bon, pas du tout, quoi. Vraiment,
dans les tours de la défense.
C'est ça. Non, franchement, trompez-vous, quoi. Allez-y. Si ça vous plaît, génial. Vous avez trouvé ce que vous voulez faire. Et sinon, encore mieux, vous savez, vous éliminez. Vous savez, ouais. Voilà.
OK, bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce que tu fais. Merci pour tes retours. Peut-être la même question que je t'ai posée pour le Mexique, s'il y avait quelque chose de l'âme espagnole que tu avais envie de partager. Et puis, si tu veux faire la promo de Madrid. Moi, j'ai jamais été à Madrid. Je
ne
sais pas comment c'est.
Alors, c'est vrai qu'on connaît plus Barcelone. Quand on est français, on a plus tendance à aller à Barcelone pour la plage, mais c'est vrai que Madrid, c'est top. c'est top, il fait bon tout le temps. Il fait un petit peu froid en hiver, mais il y a du soleil, donc ça aide. Et les gens sont hyper ouverts, hyper accueillants, beaucoup plus extravertis, en fait. C'est vraiment... c'est vivant. C'est une ville hyper vivante. Et pour sortir, pour faire des visites, pour niveau culturel, c'est toujours hyper animé. Donc, si vous ne connaissez pas Madrid, allez-y.
Et attends, il y a une question que je t'ai pas posée sur l'espagnol. Ouais. Du coup, bon, je suppose que tu as été immergé longtemps au Mexique, mais comment c'était est-ce que tu bosses en espagnol déjà ?
Oui.
Et du coup, comment ça se passe ? Comment t'as transitionné peut-être enfin, t'as fait la transition entre un espagnol de classe qui est peut-être comme le mien.
Oui, au départ, oui.
Tu vois, bosser dans une nouvelle langue, ça peut être hyper compliqué.
C'est vrai qu'en fait, j'ai eu quand même beaucoup de temps d'adaptation parce que j'ai fait un premier échange au Mexique où là, mon niveau, oui, était terrible. Et au fond, au bout de 3-4 mois, en fait, je pense que vraiment, t'apprends vraiment quand t'es immergé dans la culture. Moi, quand j'étais allé au Mexique, en échange, j'étais avec des colocs mexicains. Oui. Du coup, voilà, je parlais espagnol tous les jours. J'étais obligé, quoi. En cours aussi, du coup, même si j'avais des potes français, évidemment, mais on était mélangés avec les locaux. Du coup, t'es obligé de parler. C'est ça qui t'aide à progresser. Après, c'est vrai que l'espagnol mexicain...
C'est différent au travail, après.
C'est différent. Au travail, en plus, c'est différent. T'as toujours des termes un peu techniques. Bon, Google Trad, c'est très bien. mais ouais, tu t'adaptes rapidement. Après, c'est vrai que bon, l'espagnol du Mexique est différent de l'espagnol d'Espagne. C'est 2-3 mots qui m'ont posé des problèmes. Mais globalement, immergez-vous. N'ayez pas peur non plus de vous tromper, en fait. Même en VE. Bon, après, je parle de ce que je connais, mais en VIE, on peut t'offrir même des classes de langue, tu vois. Donc, même si t'as pas un niveau hyper bon en espagnol, tu peux parler anglais aussi. Donc, voilà.
Et comme tu dis, ça dépend de ton métier. Si tu manipules des chiffres, déjà, au moins, t'auras un langage commun. Mais c'est vrai que si tu fais de la com.
Là, c'est un peu plus compliqué, peut-être. Il vaut mieux maîtriser. Mais oui. Ça dépend le style de métier. Mais il y a toujours des aides. Donc, pas de problème.
Ok, trop cool. Écoute, pour finir, est-ce que tu as un conseil que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent, qui se posent la question de leur orientation professionnelle ? Donc, on prend plus large. On prend Romain, encore étudiant, qui hésitait entre la finance, la défense et puis l'étranger. Si tu devais me partager un conseil ou une ressource ou quelque chose qui t'a marqué dans ton parcours, qu'est-ce que ce serait ?
Non, moi, je pense que c'est ce que je disais, en fait. D'oser, quoi. D'oser, de prendre des risques et de se tromper. C'est pas très grave si tu... c'est à 27 ans, t'es pas manager, c'est pas très grave en fait. Enfin, c'est le plus important, c'est faire ce qui te plaît, quoi. Enfin, c'est trouver ta voie et essayer des choses en fait. C'est ça. Si comme moi t'as la bougeotte, ben, fonce, vas-y. Si tu préfères une vie au bureau, ben, prends aussi tes choix. Voilà, c'est ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes faire. Donc essaye et ose.
Mais toi, t'as l'air assez heureux. Et t'as vécu des erreurs ou justement des fois où tu t'es dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ?
Non, mais honnêtement, par exemple, quand j'étais au Mexique, c'est vrai que même niveau conditions de vie, tu vois, je me dis, merde, quoi, peut-être que j'aurais dû choisir l'audit à Paris. C'est vrai que je voyais des potes, tu vois, progresser beaucoup plus vite que moi, avec de meilleurs salaires, meilleurs postes. Et j'étais un peu... je stagnais peut-être un petit peu. Et je me suis dit, mais en fait... est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, tu vois, ou est-ce que je suis beaucoup plus... En fait, je pense que j'étais beaucoup plus heureux au Mexique en train de découvrir un autre pays que d'être assis dans un bureau toute la journée et peut-être avoir peut-être un meilleur salaire, un meilleur poste, mais un peu moins stimulant, quoi, personnellement. Donc c'est vrai...
C'est un vrai sujet, hein, le regard de l'autre et comment tu perçois la réussite, entre guillemets, avec des choses très... avec Instagram et 2-3 conversations, quoi.
Mais c'est bête, au fond, parce que tu es toujours enclin à te comparer avec fais ce dont tu as envie, quoi, vraiment, sans te comparer avec ton voisin, quoi. Donc c'est ça le plus important, je pense.
Question personnelle, mais t'es pas obligé de me répondre.
Oui.
Comment ça a impacté aussi ta construction sur ta vie personnelle? Donc tu m'as parlé un peu de tes amis, mais il faut construire une vie. Est-ce que c'était pas difficile pour ta famille, ta compagne, etc.? Comment tu reconstruis à l'étranger?
Ouais, c'est toujours des... il faut faire des compromis, quoi. C'est toujours un peu... c'est vrai que moi aussi, je suis assez proche de ma famille. Du coup, ça fait quand même maintenant 5 ans que je vis à l'étranger, quoi. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Bon, les vacances que tu prends, bah, tu les prends pour voir ta famille, voilà. C'est toujours ça. Mais c'est aussi des compromis à faire. Et moi, je suis hyper épanoui comme ça, tu vois.
Si ça te donne espoir, ma mère est anglaise et elle vit en France et depuis 40 ans.
Ok, d'accord.
Peut-être moins, mais...
Et elle n'a jamais eu envie de retourner
Non, jamais.
Jamais.
Merci Romain pour ton temps, merci pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais ajouter ?
Je crois pas. Je pense qu'on a bien fait le tour. Mais en tout cas, merci à toi. Merci Jasmine pour ton temps. Et c'était vraiment une expérience hyper agréable.
En tout cas, si vous êtes tenté par les VIU Madrid ou voir Carrefour, n'hésitez pas à contacter Romain.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Jasmine Manet et tous les dimanches à 18h avec Carla Abirad, nous sortons un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser plein de petites étoiles et surtout en parler autour de vous, c'est vraiment ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Pour aller plus loin, tous les mardis dans notre newsletter, Carla et moi écrivons sur un sujet du monde professionnel. et on essaie vraiment de faire de cet email un des meilleurs que vous recevez chaque semaine. En prime, on rajoute des ressources, des inspirations et des offres pour vous aider à construire votre carrière. Last but not least, rendez-vous sur Instagram, @vocation.co, pour rejoindre la communauté. C'est là qu'on est le plus actifs. À la semaine prochaine !